Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Poursuivant sa convalescence à la maison Sainte-Marthe dans le respect des prescriptions médicales, le pape François a invité les fidèles, le dimanche de Laetare, à vivre ce carême et plus encore le jubilé comme un temps de guérison. Le texte de son exhortation pour l'Angélus a été publié dimanche par la salle de presse du Saint-Siège. François a également exprimé sa proximité spirituelle envers les pays ravagés par la guerre et la Birmanie qui souffre également du puissant séisme qui a frappé la région vendredi. Les missionnaires de la Miséricorde ont conclu leur jubilé à Rome avec la messe présidée par Mgr Rino Fisichella, propréfet du dicastère pour l'évangélisation, en l'église de Saint-André du Val à Rome. Vous aurez tout à l'heure les détails de l'actualité de l'Église avant de passer à la rétrospective des nouvelles de l'Église en Afrique. L'actualité sociale et politique sur le continent nous conduira entre autres au Soudan et au Nigeria et nous conclurons l'édition de notre programme avec la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du Synode sur la synodalité.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Sorti de la polyclinique Gemelli de Rome depuis dimanche dernier, le pape consacre ses journées aux soins, à la prière, au repos et au travail. Toujours en communion spirituelle avec les fidèles, il a partagé sa catéchèse dominicale en ce quatrième dimanche de carême, dimanche de Laetare. S'appuyant sur l'évangile du jour qui relate la parabole du fils prodigue, François s'est arrêté sur la figure du Père qui, selon lui, nous révèle la miséricorde infinie de Dieu envers tous, qui guérit nos blessures afin que nous puissions nous aimer comme des frères. S'adressant donc aux fidèles dans son exhortation, l'évêque de Rome les a invités à vivre ce carême, et plus encore le jubilé, comme un temps de guérison. Rappelant également l'expérience qu'il a faite de la guérison, François remercie du fond du cœur tous ceux qui, à l'image du Sauveur, sont des instruments de guérison pour leur prochain, par la parole et le savoir, par l'affection et la prière. Et confiant dans la miséricorde de Dieu le Père, le pape continue de prier pour la paix, notamment en Ukraine, en Palestine, Israël, au Liban et en République démocratique du Congo, ainsi que pour la Birmanie qui souffre également du puissant séisme qui a frappé la région vendredi et aussi endeuillé la Thaïlande. Le pape prie également pour le Soudan où la guerre continue de faire des victimes innocentes. J'exhorte les parties au conflit à donner la priorité à la protection de la vie de leurs frères civils et j'espère que de nouvelles négociations s'ouvriront dès que possible afin de trouver une solution durable à la crise. La communauté internationale devrait redoubler d'efforts pour faire face à cette effroyable catastrophe humanitaire, a interpellé le Saint-Père. À Rome, les missionnaires de la Miséricorde ont participé à la messe de leur jubilé dimanche 30 mars en l'église de Saint-André du Val. Partant de la parabole du fils prodigue, Mgr Rino Fisichella, propréfet du dicastère pour l'évangélisation, a expliqué dans son homélie que nous possédons des traits des deux fils, celui qui est resté près du père et le fils prodigue. Plus de détails avec Xavier Sartre.
Il y a en nous, explique Mgr Fisichella, un peu des deux fils de la parabole que Jésus raconte aux pharisiens. Celui qui veut être libre, autonome, décider de faire ce qu'il veut, et puis il y a celui qui se pense parfait, obéissant aux volontés du Père. Dans le premier cas, c'est un échec, car loin de Dieu et de sa maison, l'Église, on erre sans but. Dans le second, on finit par se rebeller contre Dieu, se trompant sur le sens de la gratuité du service. Les prêtres ne sont pas exempts de ces travers, or la proximité avec les mystères sacrés devrait les porter à entrer toujours plus dans les profondeurs de la pensée du Père. En somme, pour Mgr Fisichella, nous sommes appelés à persévérer avec Dieu pour tout partager avec lui. Il appelle ainsi les missionnaires de la Miséricorde à regarder loin, pour saisir immédiatement la présence de ceux qui sont loin et qui se rapprochent, à abandonner la myopie qui habite souvent nos pensées et nos comportements. Il ne faut pas rester non plus assis dans le confessionnal et aller à la rencontre des fils prodigues qui reviennent à la maison du Père. Pour Mgr Fisichella, l'amour oublie le péché et le pardon oblige à regarder directement vers l'avenir pour le vivre dignement. L'amour change la vie, le pardon redonne la vie, le partage et le fruit de la générosité.
Merci Xavier. Faisons place à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Françoise Niamia.
Alors, Christian, je vous propose de commencer cette rétrospective par les impressions du cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui en Centrafrique, suite à la sortie d'hôpital du pape François dimanche 23 mars. C'était après 5 semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie. En rendant grâce à Dieu, le cardinal Zapalenga a témoigné de la force de la prière dans l'espérance en Dieu, tout en invitant à demeurer en prière pour le Saint-Père.
Le Saint-Père vient de passer 5 semaines d'hospitalisation, 5 semaines de pronostics, 5 semaines d'épreuves, 5 semaines que je peux appeler aussi de prière, d'espérance. Nous avons vu la puissance de la prière de par le monde, des hommes, des femmes, personnellement et en communauté, se sont mobilisés pour prier. Et nous avons vu la puissance de la prière.
En Côte d'Ivoire, à 7 mois de l'élection présidentielle, les évêques ivoiriens ont encore exprimé leur profonde préoccupation quant au climat sociopolitique qui prévaut dans le pays. Dans une déclaration rendue publique par Mgr Marcelin Yaokwadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, lundi 24 mars, à leur siège, sise à Abidjan-Cocody, l'épiscopat ivoirien a appelé à une élection juste, transparente, inclusive et apaisée. Revenons au compte rendu de notre correspondant Marcel Aristonbri.
Les évêques disent être inquiets de la météo politique actuelle dans leur pays, appelant à une prise de conscience collective pour éviter la répétition des tragédies du passé. Ils ont insisté sur la nécessité impérieuse d'un dialogue inclusif entre toutes les composantes de la société afin que le scrutin à venir ne soit pas une nouvelle source de discorde, mais plutôt une occasion de raffermir l'unité nationale.
En République démocratique du Congo, à l'occasion de la célébration de l'Annonciation du Seigneur mardi 25 mars en la cathédrale Notre-Dame de la Paix, Mgr François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu dans la province du Sud Kivu, a dans son homélie exhorté les femmes catholiques de son diocèse, les mamans catholiques, à prier et à éduquer à la paix. Au Bénin, revenons à cette initiative de la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, le lancement jeudi 27 mars de 6 projets visant les personnes âgées ou en situation de handicap des départements de l'Atlantique et du littoral du sud Bénin. Faisant suite à un appel à projets clôturé au mois de février, cette cérémonie a inauguré la mise en œuvre de 6 projets qui seront financés à partir de fonds mobilisés lors de l'édition 2024 de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, institué par le pape François en 2021. Le père Théophile Akora, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, a souligné l'esprit de cette initiative.
L'événement qui nous rassemble ce matin marque le lancement officiel des projets dédiés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap au sein de notre archidiocèse. Une expression concrète de notre engagement à bâtir une communauté toujours plus solidaire, inclusive et fraternelle.
Des propos recueillis par notre correspondant au Bénin. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Merci, Françoise.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le chef des paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide FSR, Mohamed Hamdan Daglo, a reconnu dimanche pour la première fois que ses troupes avaient perdu la capitale, dont l'armée avait affirmé jeudi avoir repris le contrôle total. Il est exact que dans les jours précédents, il y a eu un repositionnement des forces à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, et cela a été approuvé par la direction et le service des opérations, et c'est une décision collective. Je vous confirme que nous sommes effectivement partis de Khartoum, mais nous reviendrons avec une détermination plus forte, a déclaré le général Daglo dans un discours adressé à ses troupes, relayé sur les réseaux sociaux. Chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan avait déclaré mercredi soir la capitale libérée des FSR avant que l'armée n'en annonce jeudi la prise de contrôle totale. L'armée nigériane a imputé dimanche les affrontements qui ont fait 12 morts vendredi lors d'un rassemblement de chiites à Abuja à des manifestants violents qui ont ouvert le feu sur les forces de sécurité. Cette manifestation pro-palestinienne était à l'appel du mouvement islamique du Nigeria, organisation interdite en 2019 par les autorités car elle promeut une révolution islamique. 11 manifestants et un soldat ont été tués, selon un rapport des services de renseignement gouvernementaux. L'armée nigérienne a annoncé samedi soir son retrait de la force régionale dédiée à la lutte anti-djihadiste dans le bassin du lac Tchad, selon un bulletin d'information lu à la télévision d'État. En 2015, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger avaient réactivé la force multinationale mixte créée en 1994 pour combattre les groupes djihadistes autour du lac Tchad. Cette étendue d'eau qui chevauche les quatre pays s'est transformée en bastion djihadiste, abritant à la fois des combattants de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le père jésuite Martin Baati poursuit la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue de ses travaux.
Mes chers sœurs et frères, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Nous explorons la troisième et dernière partie du rapport qui s'intitule « Tisser des liens, construire une communauté ». Aujourd'hui, nous lisons le point de convergence du sous-point appelé « Organisme de participation ». Le premier point de convergence concerne la co-responsabilité dans la mission. En tant que membres du peuple fidèle de Dieu, tous les baptisés sont co-responsables de la mission, chacun selon sa vocation, son expérience et sa compétence. Tous contribuent donc à imaginer et à décider les étapes de réforme des communautés chrétiennes et de l'Église dans son ensemble, afin qu'elle puisse vivre la douce et réconfortante joie d'évangéliser. La co-responsabilité est au service de la mission. Cela montre que l'on est vraiment réuni au nom de Jésus. Cela permet aux organismes de participation d'échapper à l'atrophie administrative et aux logiques mondaines de pouvoir. Cela rend les rencontres fécondes. Selon le deuxième point de convergence, à la lumière du magistère récent, notamment Lumen Gentium et Evangelii Gaudium, la co-responsabilité de tous dans la mission doit être le critère qui sous-tend la structuration de communautés chrétiennes et de l'Église locale tout entière, avec tous ses services, toutes ses institutions, dans chacun de ses organismes de communion. La juste reconnaissance de la responsabilité des laïcs pour la mission dans le monde ne peut devenir un prétexte pour attribuer aux seuls évêques et prêtres le soin de la communauté chrétienne. Pour le troisième point de convergence, l'autorité par excellence est celle de la parole de Dieu, qui doit inspirer chaque rencontre des instances de participation, chaque consultation et chaque prise de décision. Enfin, pour le quatrième point de convergence, les différents conseils pour le discernement et la prise de décision d'une communauté missionnaire synodale doivent comporter des hommes et des femmes au profil apostolique, choisis non pas à raison de leur fréquentation assidue des lieux d'église, mais à raison de leur témoignage évangélique authentique au sein des réalités les plus ordinaires de la vie.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Très chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et restez branchés sur nos programmes.
Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur. servitude, majesté. Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, de vérité, nous crions saint. Tu es saint, toi le Dieu tout-puissant. Vêtue